Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Ici même aux États-Unis, troisième nuit de violence à Minneapolis suite à la mort d'un noir tué par un policier blanc. Un commissariat a été incendié et plusieurs magasins pillés. Twitter signale un nouveau message du président Donald Trump sur ce qui se passe à Minneapolis que l'oiseau bleu qualifie d'apologie de la violence. Au Burkina Faso, l'armée affirme avoir tué 10 djihadistes lors d'une opération dans l'ouest du Burkina. La CPI autorise l'ex-président ivoirien Gbagbo à quitter la Belgique, mais sous conditions. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Actualité oblige, nous commençons par les États-Unis. Le policier mis en cause dans la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors d'une interpellation mortelle à Minneapolis dans le nord des États-Unis, a été arrêté, ont annoncé les autorités locales. Le policier impliqué dans la mort de M. Floyd a été identifié comme Derek Chauvin et a été placé en détention par la police criminelle. Une équipe de la chaîne américaine CNN a été arrêtée par la police alors qu'elle couvrait en direct la troisième nuit d'émeute consécutive à la mort de George Floyd. Nathalie Barge.
Tôt ce matin, Omar Jiménez, journaliste à CNN, et ses deux collègues ont été arrêtés et menottés par des policiers alors qu'ils couvraient en direct les émeutes. Ils ont été relâchés 2 heures après et le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a présenté ses excuses à la chaîne. La nuit dernière, un commissariat a été incendié et une trentaine de magasins pillés. Minneapolis a connu 3 nuits de violentes émeutes depuis la mort lundi de George Floyd, un noir de 46 ans interpellé par la police. Selon une vidéo devenue virale, un policier l'a immobilisé en posant un genou sur son cou et Floyd meurt apparemment d'une asphyxie. Les 4 policiers impliqués dans cette arrestation ont été licenciés. Les autorités locales et fédérales ont ouvert des enquêtes. Pour le moment, il n'y a eu aucune inculpation, ce qui alimente la colère et les frustrations.
Par ailleurs, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a qualifié aujourd'hui de meurtre la mort de George Floyd, qu'il condamne avec force et présente ses condoléances à la famille de la victime. Hier, Michelle Bachelet, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, avait elle aussi condamné la mort de George Floyd à Minneapolis. Le président Trump a dit que c'est une tragédie et a appelé à une enquête rapide, mais il a aussi dénoncé ce matin les casseurs, ce qui est venu alimenter la petite guéguerre avec Twitter. Twitter a masqué vendredi un message de Donald Trump sur les affrontements de Minneapolis, le laissant néanmoins accessible pour signaler une apologie de la violence. Les détails avec Nanit Talani.
Le tweet d'hier soir du président américain est en lien avec des gens qui manifestent à Minneapolis contre la mort violente de l'Afro-Américain George Floyd lundi en pleine rue lors d'une interpellation musclée par des policiers blancs. Donald Trump a tweeté jeudi soir, je cite, « Ces voyous déshonorent la mémoire de George Floyd et je ne laisserai pas faire cela. » Vient juste de parler au gouverneur Tim Walz et lui a dit que l'armée à ses côtés tout du long. Au moindre problème, quand les pillages démarrent, les tirs commencent. Merci. Le président a publié ce message pouvant être interprété comme une incitation aux forces de l'ordre à faire usage de leurs armes après l'incendie d'un commissariat de Minneapolis lors d'une troisième nuit d'affrontement après la mort de George Floyd. Quelques heures après, le réseau social américain a masqué ce tweet avec un message d'avertissement, laissant simplement la possibilité de le retweeter seulement avec des commentaires, mais pas de le liker ou d'y répondre. Le tweet reste intégralement visible lorsqu'on clique sur le message. Selon le réseau social, ce tweet viole les règles de Twitter sur l'apologie de la violence, mais il est dans l'intérêt du public qu'il reste accessible. Hier, M. Trump, ulcéré par l'attitude de Twitter à son égard, qui avait pour la première fois signalé 2 de ses tweets, a signé un décret visant à limiter la protection judiciaire des réseaux sociaux. Le décret devrait être le point de départ d'une longue bataille en justice.
Et le compte officiel de la Maison-Blanche sur Twitter, @WhiteHouse, a tweeté aujourd'hui le même message de Donald Trump. Le réseau social l'a également masqué avec le même message d'avertissement.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, l'état-major de l'armée annonce la mort de 10 djihadistes tués lors d'une offensive militaire. L'opération a été menée jeudi contre une de leurs bases dans l'ouest du pays. Plus de détails avec Mohamedou Oumfa.
Selon le communiqué de l'état-major burkinabé, c'est une unité mixte composée d'éléments de la gendarmerie et de soldats de l'armée de terre qui a mené l'opération. La cible, une base de djihadistes à Wourou, dans la province du Sourou, dans l'ouest du pays. L'opération a permis de neutraliser 10 terroristes et de récupérer des armes et des motos, selon l'état-major, qui précise qu'un gendarme a été blessé. Ce bilan n'a pas été vérifié par une source indépendante. C'est au moins la troisième opération du genre en 10 jours. L'armée burkinabé a affirmé avoir abattu 47 terroristes le 19 mai dans le nord-ouest du pays et 13 autres le 23 mai dans le nord. Le 24 mai, l'armée du Faso a annoncé aussi la mort de 8 djihadistes et l'interpellation de 38 suspects lors d'une opération conjointe entre les armées burkinabées et ivoiriennes. Le Burkina est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires qui ont fait près de 900 morts depuis 2015 et contraint 840 000 personnes à fuir leur foyer.
La Cour pénale internationale a autorisé jeudi sous condition l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à quitter la Belgique. Monsieur Gbagbo y était assigné à résidence depuis son acquittement en 2019 d'accusation de crime contre l'humanité. Eric Manirakiza.
Les juges ont rejeté la demande de liberté sans condition présentée par l'ex-chef d'État ivoirien. Mais un porte-parole de la Cour de La Haye a indiqué que Laurent Gbagbo peut se rendre dans un pays de son choix qui devra accepter au préalable de le recevoir. Les juges ont cependant décidé de mettre fin à certaines conditions imposées à la mise en liberté de M. Gbagbo et Blegoudé, notant celle de ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil. La condition de se présenter chaque semaine auprès des autorités du pays d'accueil ou auprès de la Cour a été révoquée. Néanmoins, ils doivent informer la Cour et l'État qui les accueille de leur adresse. Blegoudé s'est dit content de retrouver sa liberté de mouvement, ajoutant que le chemin de la justice et de la vérité est long et lent. Nous sommes contents, c'était important que ces restrictions soient levées, a réagi Frank Anderson Kwasi, porte-parole du FPI. L'ex-président ivoirien Henri Conan Bédier, chef du PDCI, a fait part de sa joie, estimant que cette décision de justice est un moment de bonheur pour la majorité des Ivoiriens.
Le Sénégal a annoncé hier prolonger jusqu'au 30 juin la suspension de tous les vols au départ ou à destination du pays en raison de la pandémie du coronavirus. L'annonce en a été faite sur les réseaux sociaux par le ministre des Transports, Alioune Sarr. Le président Macky Sall avait pourtant annoncé un allègement des restrictions à partir du 12 mai et a affirmé la nécessité d'apprendre à vivre en présence du virus. Le Sénégal a déclaré officiellement plus de 3300 cas de contamination, dont 41 décès. Au Cameroun, 3 bénévoles arrêtés samedi dans le sud du pays pour avoir distribué des masques et du gel hydroalcoolique ont été libérés. Ces bénévoles font partie de l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative, lancée par l'opposant Maurice Kamto pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus. Le 11 mai, 6 autres bénévoles ont été interpellés à Yaoundé avant d'être relâchés au bout de 5 jours. Avec plus de 5300 malades du Covid, dont 177 décès, le Cameroun fait partie des pays les plus affectés en Afrique subsaharienne. L'épouse du président sortant burundais Pierre Nkurunziza, Denise Bukumi, a été évacuée de Bujumbura à bord d'un avion médicalisé vers Nairobi où elle a été hospitalisée. Aucune communication officielle n'a été donnée sur son état de santé. À Nairobi, une source au sein du ministère de la Santé a affirmé que la première dame était sous traitement et présentait des difficultés respiratoires sans autre précision. Le groupe British American Tobacco, BAT, a annoncé vendredi avoir saisi la justice sud-africaine pour contester l'interdiction controversée des ventes de tabac imposées par le gouvernement dans le cadre de ses mesures contre le nouveau coronavirus. Les 57 millions d'habitants d'Afrique du Sud vivent depuis 2 mois sous le régime d'un confinement national très strict qui doit être allégé à partir du 1er juin. Le président Cyril Ramaphosa a levé l'interdiction des ventes d'alcool, mais maintenu celle des cigarettes. Cette décision a provoqué la colère des industriels et des commerçants de tabac qui négocient depuis des semaines un feu vert à la reprise de leurs activités. Épidémie du coronavirus dans le monde, le nombre de morts est en hausse en Russie et sur le continent américain. Malgré tout, Moscou prévoit d'assouplir le confinement à partir de lundi, suivant l'exemple de l'Europe qui poursuit son déconfinement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
L'Éthiopie se prépare à l'ouverture de son marché des télécommunications. Addis Abeba a lancé un appel d'offres pour 2 nouvelles licences de télécom. Chacune pourrait coûter plus $1 milliard. Ce processus, qui sera clôturé le 22 juin, doit mettre un terme au monopole d'Ethio Telecom. Les autorités prévoient aussi de vendre 40% des parts de l'opérateur public. Parmi les potentiels investisseurs figurent Orange, Safaricom et MTN. La Banque centrale du Nigeria a abaissé son taux directeur à 12,5% contre 13,5% auparavant, soit son plus bas niveau depuis 2016. Le ministre des Finances a annoncé que le PIB du pays pourrait se contracter jusqu'à 8,9% en 2020. Le FMI, lui, estime que l'économie nigériane devrait reculer de 3,4% cette année. La banque sud-africaine Rand Merchant a confirmé jeudi qu'elle fait partie d'un consortium de banques fournissant un financement de $15 milliards pour le projet de gaz naturel liquéfié de Total au Mozambique et dont la production devrait commencer en 2024. Pour terminer, le constructeur automobile Renault compte suspendre ses projets d'extension d'usine au Maroc et supprimer environ 15 000 emplois dans le monde. Le projet prévoit la réduction des effectifs sans licenciement sec via des départs volontaires, des départs à la retraite non remplacés et des mesures de mobilité interne ou de reconversion. Les capacités de production du groupe au niveau mondial devraient être réduites à quelque 3,3 millions de véhicules contre 4 millions actuellement.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. La saison 2020-2021 du championnat d'Espagne de football commencera le 12 septembre. C'est ce qu'avance Javier Tabas, le président de la Liga, lors d'une émission à distance organisée par le média Marca sur le thème du sport de demain, ce vendredi. L'important sera de connaître la date de fin de la saison actuelle. La suivante, la saison 2020-2021, commencera le 12 septembre, a annoncé Tebas lors de l'événement Jornadas de Marca, les journées de Marca ce vendredi matin. La star suisse du tennis, Roger Federer, arrive en tête du classement des sportifs les mieux payés au monde cette année avec $106,3 millions de gains. Selon un classement établi par le magazine américain Forbes et publié ce vendredi, le détenteur du record des titres en tournoi du Grand Chelem doit essentiellement sa place à ses contrats publicitaires et partenariats privés qui lui ont assuré 100 millions de revenus entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020, période prise en compte par Forbes. Le reste, soit $6,3 millions, provient de ses gains sur le circuit ATP. On l'a appris hier, l'édition 2020 du marathon de Boston, initialement reportée du 20 avril au 14 septembre en raison de la pandémie, n'aura finalement pas lieu. On a conjointement annoncé hier les organisateurs de l'épreuve et le maire de la ville. L'association athlétique de Boston, avec notre contribution et notre soutien, a donc déterminé que la tenue du 124e marathon de Boston n'est pas réalisable cette année pour des raisons de santé publique, a tweeté le maire Martin Walsh. Chaque année, environ 500 000 spectateurs assistent au marathon de Boston.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Ici, aux États-Unis, des manifestations contre les violences policières ont dégénéré pour la troisième nuit consécutive dans la ville de Minneapolis, dans le Minnesota. Ces manifestations font suite à la mort lundi soir de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, tué après avoir été asphyxié par un agent lors d'une interpellation musclée, selon une vidéo de la scène devenue virale. Pour un témoignage, Arzuma Compaoré a joint à Minneapolis Abdourahman Kahin, originaire de Djibouti et propriétaire de la chaîne de restaurants africains Afro Delier and Grill, qui vit aux États-Unis depuis une vingtaine d'années.
Ce qui s'est passé hier soir et avant-hier soir, c'est pas la ville que je connaissais. C'est toute la ville est brûlée. Il y a surtout une autre personne qui a été tuée par un propriétaire d'une boutique, la deuxième personne qui a été tuée. Nous sommes en train de vivre un moment très difficile ici à Minneapolis-Saint-Paul depuis les trois derniers jours. C'est les quartiers des immigrants à Lake Street, c'est les poumons de fer des Africains et aussi des Mexicains. Donc, c'est vraiment un quartier très chaud en ce moment. Ils perdaient déjà leur business avec les pandémiques des coronavirus. La police de l'État est intervenue. Et depuis 3 heures, ils ont repris les contrôles en espérant que ça va aller dans les bonnes directions.
Quelles sont les personnes qu'on retrouve dans la rue?
C'est pas seulement les Noirs, c'est les Mexicains, c'est les Blancs, c'est toute personne qui a été touchée et sortie. Il y a les autres malfaitants qui profitent de la situation et qui brûlent des boutiques. La plupart de ces boutiques ou de ces business appartiennent à des gens immigrants qui sont vraiment souffert déjà avec la situation actuelle.
Personnellement, comment est-ce que vous vivez cette situation?
Moi, j'ai vécu depuis plus de 20 ans à la ville de Minneapolis. La peur est toujours présente quand vous êtes arrêté par une police et surtout quand vous êtes un noir. C'est toujours différent parce que 90% de la police de Minneapolis sont blancs. Malheureusement, mes business ne sont pas dans les coins. Mes business sont un peu plus loin. Mais on sait jamais si ça continue. Ça peut toucher tout le monde. Pour le moment, les gens, ils sont choqués. Notre première revendication, c'est l'arrêt des 4 agents, les 4 officiers de la police de Minneapolis. Et nous espérons que ça va se faire dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent.
Abdourahman Kahin, propriétaire de la chaîne de restaurants africains Afro Deli & Grill à Minneapolis, dans le Minnesota. Les tensions raciales persistent donc aux États-Unis. Ce qui se passe à Minneapolis aujourd'hui n'est pas une première dans ce pays. Il y a eu récemment un noir de 25 ans qui faisait du jogging et qui a été abattu par un ancien policier en Géorgie. Pourquoi cette persistance des tensions raciales? Eddie Sango a joint à New York le professeur d'histoire à Manhattan College, Mohamed Mbodj.
Il y a un ras-le-bol, une exaspération que de pareils incidents, je veux parler de la mort de Floyd, puisse encore arriver donc au 21e siècle, alors que ce sont des incidents de ce genre qui ont toujours été dénoncés. Ça fait presque 200 ans et qu'on continue encore à avoir les forces de l'ordre qui vont prendre à la légère la sécurité des citoyens noirs américains, surtout de genre masculin. C'est un peu ce qui a fait déborder le vase. D'autant plus que depuis un mois ou à peu près, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles de ce côté-là. Il y a eu cet individu, Ahmad qui a été abattu par des voisins, dont l'un est un ancien policier retraité en Géorgie. Il y a eu cette femme, la police locale à Louisville a pénétré dans sa maison de façon indue, sans s'annoncer réellement, et a ouvert le feu sur elle, donc l'a tué sur le coup. Alors donc, on a l'impression qu'il y a une accumulation, et si on se remémore ce qui s'est passé il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, les très beaux Martine et d'autres, disons, accidents de ce genre. Certains pensent que c'est la police qui est en guerre contre la communauté noire. D'autres pensent qu'en réalité, c'est le système américain dans sa totalité qui est coupable donc, de cette agression contre les Noirs. Et donc, beaucoup de Noirs et de, disons, d'activistes invoquent le droit d'autodéfense, c'est-à-dire le droit d'aller à l'attaque lorsqu'on est attaqué.
Pensez-vous que ces événements aient ravivé, comme certains pensent, les divisions sur base de race aux États-Unis?
Ces divisions n'ont jamais disparu. Elles ont été atténuées avec le symbolisme que représentait peut-être l'élection d'Obama à la présidence. Disons, le côté extrémiste ou en tout cas, disons véhément que cette division avait été un tout petit peu passée sous silence. Après tout, les États-Unis semblaient avoir tiré la page et viré leur culture, comme on dit. Mais on se rend compte qu'en réalité, une grosse part de l'opposition à Obama et même de l'élection de Trump est basée en fait sur cette division raciale. Il y a une sorte de revanche contre cet homme Obama qui aurait été élu de façon illégitime ou en tout cas dont la politique n'aurait pas été représentative de la majorité, de ce que voulait la majorité des Américains. Donc il y a eu une sorte de retour de bâton et qui a débridé un peu ces forces de haine raciale qui donc ont pu s'exprimer un peu plus librement, que ce soit à Charlottesville, que ce soit à travers les tweets de Trump et d'autres. Et l'extrême droite racialiste américaine a surgi et même ils ont maintenant un représentant attitré avec Stephen Miller donc à la Maison Blanche. Je ne pense pas que cela va s'éteindre. Au contraire, je pense que d'ici les élections, on va peut-être avoir un peu plus de surenchère.
Les réactions viennent de partout, mais la protestation tourne aux émeutes et aux pillages. Mais ce sont plus les Noirs qui se distinguent quand il s'agit des pillages et des émeutes. Pensez-vous qu'il y a autre chose qui est cachée derrière? C'est juste par revanche ou par pauvreté que cela se fait?
Oui, bon, il y a certainement un aspect pauvreté. Donc, l'attrait de ce qu'on peut appeler le clinquant qu'on ne peut pas acheter soi-même, si on peut l'obtenir un tout petit peu dans l'anonymat de la foule. Bon, on sait très bien que ces pulsions sont souvent attisées par la foule, mais d'une manière générale, c'est plutôt faire monter les enchères pour dire que les Noirs sont prêts à se défendre.
Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattan College à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La nouvelle était attendue par ses partisans. Laurent Gbagbo est désormais libre de voyager après l'allègement drastique des conditions de sa liberté hier par la Cour pénale internationale. La CPI, en effet, autorise sous condition l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à quitter la Belgique où il était assigné à résidence depuis son acquittement en 2019 d'accusation de crime contre l'humanité. Bagué Sikoura a recueilli la réaction de l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, Pascal Afinguessan, qui a parlé hier soir à l'ancien président.
Mais avec beaucoup de soulagement et de fierté, parce qu'elle contribue à donner davantage de liberté au président Gbagbo et à Charles Blé et puisque ces restrictions à tout moment, je crois que la CPI est allée dans une certaine mesure dans ce sens. Nous nous en réjouissons, nous nous en félicitons et nous espérons que la libération totale et définitive ne saurait tarder. Et donc c'est avec beaucoup de soulagement que nous avons appris ce premier pas de la CPI que nous voulons voir suivi d'un pas décisif pour mettre fin à ce mélodrame judiciaire.
Et vous pensez qu'ils vont accepter venir à Abidjan malgré le procès intenté contre notamment Blégoudé?
Mais évidemment, nous savons que tout cela relève de la politique. Donc c'est le moment justement de faire entrer la politique en jeu de manière à ce que les autorités ivoiriennes, elles aussi, dans cette voie, saisissent l'opportunité que la CPI nous offre de mettre fin à cette crise en faisant en sorte que Blégoudé et le président Laurent Gbagbo puissent rentrer et qu'ensemble nous puissions, dans le cadre du dialogue politique, disons, contribuer à la réconciliation nationale.
Et aussi contribuer à la réconciliation entre membres du FPI?
Oui, évidemment, cette réconciliation est déjà en cours et je pense que cette décision viendra booster ce processus. J'ai déjà reçu plusieurs coups de fil de nos amis qui sont en face de nos camarades. Et nous sommes en discussion et je pense que cette décision de la CPI va permettre d'accélérer le processus et d'arriver le plus rapidement possible à l'unité.
Pascal Afinguessan, président d'une des branches du FPI et ancien Premier ministre ivoirien.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Nigeria a enregistré plus de 8700 cas de coronavirus avec 254 décès. La propagation rapide du Covid-19 a mis à l'épreuve la faiblesse du système et ceux qui souffrent de maladies normales n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. D'autres refusent de se rendre à l'hôpital par crainte d'être infectés. De nombreuses familles se tournent vers l'automédication. Le reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Selon les autorités sanitaires du Nigeria, il y a eu une baisse significative du nombre de patients non atteints du Covid-19 dans les hôpitaux du pays. De 4 millions par semaine, ils sont aujourd'hui 2 millions. Ce qui est plus préoccupant, c'est que même les femmes enceintes ne se rendent plus dans les hôpitaux. Leur fréquentation a chuté de moitié pour passer d'1,3 million à environ 600 000 aujourd'hui. La vaccination des enfants a également chuté de moitié et beaucoup d'entre eux sont menacés. À l'hôpital Saint-Vincent des Sœurs de la Charité et dans d'autres hôpitaux, les chaises pour accueillir les malades sont vides. Docteur Eder Raphaël, chef de service à l'hôpital Saint-Vincent. Pour beaucoup de gens, particulièrement ceux qui ont des complications chroniques comme l'hypertension, le diabète, le cancer et autres, c'est la peur. Et puisqu'ils sont au courant de leur situation, dans les circonstances actuelles concernant les complications avec le Covid-19, ils ne viennent pas à l'hôpital. Le nombre d'infections augmente dans le pays, la peur aussi gagne du terrain. Des milliers de personnes se tournent vers l'automédication, ce qui affecte par conséquent le système de santé et la lutte contre le Covid-19. Dr Onoja Ojibo est propriétaire de la clinique privée Alpha. La conséquence de l'automédication chez les gens est que tu deviens victime de plus de complications par rapport à la pandémie et même leur cas habituel qu'ils gèrent depuis. Et tout cela de peur d'aller à l'hôpital pour se faire tester. Uzoma, mère de deux enfants, préfère acheter des médicaments pour se faire soigner à la maison.
Je préfère me soigner à la maison par rapport à aller à l'hôpital parce que on a tous peur d'aller à l'hôpital. Premièrement, on n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Deux, on a la peur d'aller à l'hôpital parce que là, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, c'est mieux de rester à la maison. De toute façon, on sait que se soigner, ce n'est pas bien. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire?
Le Nigeria fait face à une urgence sanitaire car des millions de personnes n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. Beaucoup de Nigériens n'ont pas confiance aux hôpitaux publics sous-équipés. Les soins de santé privés ne sont pas non plus à la portée de tout le monde. Le premier exportateur du pétrole du continent a un taux de pauvreté très élevé. Le président Muhammadu Buhari lui-même a passé plusieurs mois en Grande-Bretagne pour se faire soigner. Ainsi, le gouvernement nigérian est constamment critiqué par les citoyens pour son inaction à améliorer le système de santé. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Clermont Agibourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.